Il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
Loïc Bussière.
Bonsoir et bienvenue dans votre journal en français facile, journal que je vous présente en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous.
À la une, ce soir, des arrestations massives en Russie à l'occasion d'une nouvelle journée de mobilisation des partisans d'Alexei Navalny. L'opposant est toujours emprisonné depuis son retour à Moscou. On fait le point dans un instant.
À la une également, Donald Trump qui prépare sa défense en vue de son procès en destitution. Exercice compliqué puisque plusieurs de ses avocats annoncent qu'ils jettent l'éponge.
Et puis en France, l'entrée en vigueur ce dimanche des nouvelles mesures anti-Covid dans les centres commerciaux et aux frontières.
Les journaux
en français facile.
En français facile.
Tout d'abord, la Russie et ce nouveau dimanche de mobilisation en soutien à Alexei Navalny.
Un nouveau rassemblement dans plusieurs villes du pays et nouvelle réponse policière sans nuance, puisque nombre des manifestants venus réclamer la libération de l'opposant à Vladimir Poutine ont été arrêtés. On parle ce soir de plusieurs milliers d'arrestations dans tout le pays, Daniel Valot.
Dans certaines villes, les habitants ont pu se croire en état de siège tant étaient nombreuses les forces de l'ordre. À Moscou, plus d'une dizaine de stations de métro ont été fermées, l'hypercentre était totalement bouclé et les manifestants n'ont pas été en mesure de converger vers le lieu de rassemblement initial. Dans certaines villes, le dispositif policier ayant été moins impressionnant, les cortèges ont pu se former normalement. C'est le cas à Ekaterinbourg, dans l'Oural, et à Novosibirsk, en Sibérie. Et dans ces deux villes, ce sont plusieurs milliers de personnes qui ont défilé, une mobilisation au moins aussi importante que la semaine dernière. Étant donné la dispersion des cortèges dans de nombreuses villes, il est très difficile de mesurer cette mobilisation au niveau national. Mais en se basant sur le chiffre des arrestations, on peut estimer à plusieurs dizaines de milliers de personnes le nombre de manifestants dans tout le pays. Le mouvement de soutien à Alexei Navalny estime en tout cas que cette mobilisation est un succès et il appelle à une nouvelle manifestation ce mardi devant le tribunal moscovite où doit comparaître l'opposant Alexei Navalny qui pourrait être condamné à plusieurs années de prison ferme.
Daniel Valot, et ce soir, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, déplore, je cite, les interpellations massives en Russie. Les gens doivent avoir la possibilité d'exercer le droit de manifester sans crainte de répression. La Russie doit respecter ses engagements internationaux, ajoute-t-il sur Twitter. Josep Borrell, qui est rejoint par son homologue américain, Anthony Blinken, qui dénonce, lui, les tactiques brutales de la police contre, je cite, des manifestants pacifiques. La diplomatie russe critique en retour l'ingérence grossière des États-Unis dans ses affaires intérieures, Zéphirin.
Voilà, on vient justement à l'actualité aux États-Unis avec cette question. Qui défendra Donald Trump lors de son procès en destitution ?
Et l'ancien président qui doit donner une réponse mardi, mais l'affaire n'est pas si simple puisque les médias américains viennent d'annoncer qu'une partie de son équipe d'avocats avait d'ores et déjà jeté l'éponge, Oriane Verdier.
Les premières informations ont été annoncées par la chaîne de télévision CNN, suivies ensuite de plusieurs grands médias américains. Selon eux, 5 des avocats engagés par l'ancien président auraient finalement renoncé à le défendre. Parmi eux, Butch Bowers et Deborah Barbier, qui devaient prendre la tête de l'équipe. Selon plusieurs sources, la discorde viendrait avant tout d'un désaccord sur la ligne de défense à adopter. Donald Trump souhaitait plaider la thèse d'une fraude massive lors de l'élection présidentielle, alors que son équipe d'avocats voulait se concentrer sur la légalité de poursuite à l'égard d'un président qui n'est plus en fonction. Ce dernier serait allé jusqu'à affirmer que son cas était de toute façon très simple et qu'il pouvait se défendre lui-même. Le procès de Donald Trump pour incitation à l'insurrection après l'occupation du Capitole doit commencer dans moins de 10 jours. L'avocat personnel de l'ancien président, Rodolphe Giuliani, a lui fait savoir haut et fort qu'il était prêt à défendre son client pour ce deuxième procès en destitution, mais il pourrait lui-même être cité en tant que témoin. Il s'est en effet adressé à des partisans de Donald Trump le jour de leur incursion dans le Capitole.
Oriane Verdier, par ailleurs, toujours concernant les États-Unis, 10 sénateurs républicains annoncent avoir proposé à Joe Biden un plan d'aide économique alternatif à son gigantesque paquet de mesures de 1900 milliards de dollars, un montant qu'ils trouvent trop élevé. Ils sont opposés donc à ce montant. Leur contre-proposition, évaluée par le Washington Post à 600 millions de dollars, a toutefois peu de chances d'être acceptée, même si la Maison-Blanche fait savoir que le nouveau président est, je cite, ouvert aux idées et à la discussion.
L'actualité de ce dimanche, c'est aussi cette attaque terroriste en Somalie.
Dans un hôtel de la capitale, Mogadiscio, une voiture piégée a d'abord explosé en fin d'après-midi à l'entrée de l'hôtel Afrique, non loin de l'aéroport international. Des assaillants ont alors investi l'établissement. L'attaque a été revendiquée par les islamistes radicaux Chebab. Les détails dans Afrique Soir à 23h30, ce sera avec vous, justement, Zéphirin Quadio.
Et en attendant, on part en Allemagne et l'on s'intéresse à la campagne de vaccination contre le Covid-19. Comme dans d'autres pays européens, elle n'avance pas aussi vite que les autorités le souhaiteraient.
Et les doses de vaccins manquent. Les fabricants se voient reprocher leur non-respect des obligations de livraison. À Berlin, les menaces d'action en justice. Un sommet sur le sujet doit se tenir demain autour de la chancelière Angela Merkel, Pascal Thibault.
Nous ne pouvons actuellement vacciner qu'avec le frein à main serré. L'image du président de la Fédération des villes allemandes résume bien la situation. Les élus locaux et les patrons de région réclament plus de vaccins et aussi des informations plus exactes sur les livraisons pour s'organiser sur le terrain. Après BioNTech-Pfizer, qui a eu des problèmes de production, c'est Moderna qui ne va pas tenir complètement ses engagements en février. Le ministère de la Santé a tenu à rassurer hier en affirmant que BioNTech et AstraZeneca livreront finalement en février 1,8 million de doses supplémentaires. Le ministre de l'économie Peter Altmaier menace dans une interview les laboratoires d'action en justice s'ils ne respectent pas leurs obligations de livraison, alors que les tensions montent autour des retards pris par le britannique AstraZeneca. La décision de la commission vaccinale allemande de ne pas administrer ce produit aux plus de 65 ans vient un peu plus compliquer la situation. Le ministre de la Santé Jens Spahn se dit aujourd'hui ouvert à l'utilisation des vaccins russes et chinois, à condition qu'ils soient homologués par l'autorité médicale européenne. Un sommet doit réunir demain Angela Merkel, les régions allemandes et les fabricants de vaccins pour tenter d'améliorer une situation insatisfaisante. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Et toujours sur ce dossier du Covid-19 en France, les nouvelles mesures annoncées vendredi soir par Jean Castex sont entrées en vigueur aujourd'hui.
Et on parle de la fermeture des centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 mètres carrés et de la fermeture des frontières aux pays non européens. Les entrées sur le territoire français sont désormais limitées dans le but de freiner, bien sûr, la circulation du virus, même si de nombreuses dérogations accompagnent ces nouvelles restrictions. On fait le point avec Laura Martel.
Premier cas, vous êtes français ou européen et vous habitez en France. Vous êtes alors autorisé à rentrer dans l'Hexagone ainsi que vos enfants et conjoints. Deuxième cas, vous êtes français ou européen mais vous habitez à l'étranger. Il faudra la justifier d'un motif impérieux pour rentrer en France. Sur la liste publiée par le ministère de l'Intérieur sont par exemple mentionnés le décès d'un proche, une reprise d'études, une urgence médicale vitale ou encore une mission professionnelle ne pouvant être différée. Troisième cas, vous n'avez pas la nationalité d'un pays européen. Et bien malgré tout, de nombreux cas de figure vous autorisent à venir en France. Par exemple, si vous détenez un titre de séjour français ou européen et que vous habitez dans l'Hexagone, si vous devez vous y faire soigner ou encore si vous travaillez comme chauffeur de car ou dans le transport de marchandises. Dans l'ensemble des cas cités, en plus de l'attestation de déplacement, un justificatif de test PCR négatif de moins de 72 heures sera demandé, ainsi que deux déclarations sur l'honneur, l'une pour attester d'une absence de symptômes du Covid ou de contact avec un cas confirmé, l'autre dans laquelle vous vous engagez à vous isoler pendant 7 jours à l'arrivée, puis à passer un nouveau test à l'issue de cette période.
Laura Martel, et puis toujours en France, le nombre d'hospitalisations liées au Covid-19 atteint ce soir son plus haut niveau depuis près de 9 semaines. Au total, 27 613 patients, dont 3 159 en réanimation. On rappelle que l'exécutif a fait le choix de ne pas reconfiner le pays dans l'immédiat. L'idée, c'est de gagner du temps, de limiter la casse, justifie le ministre de la Santé dans les pages du JDD, Olivier Véran, qui fait état, par ailleurs, je cite, d'une légère décélération des contaminations qui peut nous permettre d'observer durant quelques jours que ce qui va se passer, Zéphirin.
Et puis un mot de sport avec le football et Lille qui prend la tête du classement de Ligue 1.
Les Lillois qui ont battu Dijon 1-0 et qui profitent du faux pas du Paris Saint-Germain à Lorient. Les Parisiens qui ont été battus, j'en bafouille, 3-2 un peu plus tôt dans la journée. En ce moment, Nantes affronte Monaco. Le match vient tout juste de commencer. Aucun but marqué pour l'heure. Et puis en handball, les Bleus s'inclinent eux au pied du podium mondial, défait par l'Espagne 35-29 dans la petite finale. C'est le Danemark qui emporte le titre après avoir dominé la Suède 26-24.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Avec